La Fabrique Politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans La Fabrique Politique. Dans notre grande opération de dévoilement des rouages des politiques publiques, on s'intéresse aujourd'hui à une institution située au cœur même du réacteur républicain, le Conseil constitutionnel. Alors oui, j'avoue, même si c'est pas glorieux, je suis allé faire un tour sur Wikipédia pour une mise à jour historique. J'y ai appris que le Conseil constitutionnel était né avec la 5ème République, il n'y en avait pas dans les républiques précédentes, en 1958, et qu'il avait commencé à fonctionner l'année suivante, ce qui lui fait tout juste 60 ans. J'y ai lu aussi que son rôle avait évolué au fil du temps et des réformes, à peu près une tous les 10 ans, dans le sens d'un élargissement progressif de ses prérogatives. Bien, mais, me direz-vous, à quoi sert le Conseil constitutionnel? Et comment fonctionne-t-il? On en entend régulièrement parler, que ce soit pour des enjeux de validation ou de censure des lois, pour des interpellations visant à vérifier la constitutionnalité d'une règle de droit ou d'un fonctionnement administratif, parfois pour des affaires de compte de campagne, jusqu'à défrayer la chronique comme ici en 2013.
...de Nicolas Sarkozy au rejet de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel hier, l'ancien chef d'État s'exprime sur les réseaux sociaux. Il parle d'une situation inédite sous la 5ème République qui met en péril l'UMP. Ses plus proches lieutenants aussi passent à l'attaque. Il dénonce un acharnement et un climat de chasse contre l'ex-président de la République. Guillaume Daret, Julien Pelletier.
C'est sa première apparition depuis le coup de tonnerre du Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy ne lâchera rien, il contre-attaque. Sur sa page Facebook, il publie un message. « Je vous demande de m'aider en vous mobilisant », écrit-il, évoquant une situation inédite sous la 5ème République qui mettrait en péril l'UMP. Nicolas Sarkozy, toujours entouré de ses proches, nouvelle entrevue ce matin avec Jean-François Copé.
La réunion de ce matin.
Écoutez, on a fait le point sur la situation. Hein. Voilà.
La droite s'attendait à une sanction, mais pas aussi radicale. Elle crie au scandale.
Imaginez que le président Sarkozy ait été réélu. Que se passerait-il aujourd'hui? Eh bien, moi je vous le dis, le Conseil constitutionnel n'aurait pas annulé les comptes de campagne, il aurait été obligé d'annuler, rendez-vous compte, un an après l'élection présidentielle. C'est impensable.
Sarkozy se dégage du Conseil constitutionnel, retrouve sa liberté d'expression. Ça va swinguer pour la gauche. Votre avis? Moi je suis très heureux. Ils ne voulaient pas de Sarkozy, eh ben, c'est eux qui finalement, quelque part, vont faire en sorte qu'ils reviennent plus vite que prévu.
Ces accusations des proches de l'ancien président font bondir la gauche.
Oh bah, c'est sûr qu'on va avoir le cinéma de la victimisation pendant les semaines et les mois qui viennent. Je pense que Nicolas Sarkozy va réagir et va nous expliquer en quoi il est injuste que pour lui, les règles soient les mêmes que pour les autres.
Je crois que la droite a du mal à admettre que la justice est indépendante. Et le mieux que nous ayons à faire, c'est de ne pas entrer dans des commentaires à l'infini sur ce terrain-là.
Cible des critiques, le Conseil constitutionnel où Nicolas Sarkozy ne siégera donc plus. Des juges qui ont dû trancher un dossier complexe.
C'était un président sortant qui était candidat. Et donc toute la question au fond qu'il y a derrière cela, c'est quand un président commence véritablement à être candidat et à cesser d'être président de la République. Et là, le débat est un débat qui peut être interminable. Les juges du Conseil constitutionnel ont choisi de l'interpréter de manière sévère. Une autre décision aurait pu être possible.
Nicolas Sarkozy dit vouloir retrouver sa liberté de parole. Ses soutiens attendent désormais qu'il s'exprime publiquement.
Mais que connaît-on de ses usages, de sa mécanique, bref, de l'envers du décor? Pour le découvrir, nous avons la chance de recevoir un membre, ou plutôt une membre du Conseil constitutionnel, l'une de ses 9 sages, qui y siège depuis 6 ans. Bonjour Nicole Maestrachi.
Bonjour.
Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Nicole Maestrachi, pour commencer, j'aimerais plonger les auditrices et les auditeurs au cœur du Conseil de manière très concrète, comme s'ils le visitaient. D'abord, c'est où? À quoi ressemblent les locaux? Et quand on rentre dedans, on croise qui?
Alors, le Conseil constitutionnel est au Palais Royal, dans l'aile Montpensier du Palais Royal, d'accord, qui a été construite après la Révolution. Au Palais Royal, il y a le Conseil constitutionnel, la Comédie-Française, oui, le Conseil d'État, le ministère de la Culture et un des plus jolis jardins de Paris. D'accord. Et les colonnes de Buren. Okay. Voilà.
Donc on est là.
Alors, lorsqu'on entre au Conseil constitutionnel, eh bien, c'est une petite maison, le Conseil constitutionnel. Mmh. Hein, c'est 60 personnes en tout et pour tout, dont 9 membres, dont 9 juges constitutionnels. Mmh. Et on entre dans des très beaux locaux, bien entendu, qui ne sont pas forcément totalement adaptés à l'époque moderne, mais qui sont très beaux, classés. Et d'accord. Qui on rencontre ? Eh bien, on rencontre les 9 juges. On peut rencontrer éventuellement un ancien président de la République qui siège au Conseil constitutionnel. Et puis, on rencontre un certain nombre de juristes qui aident les juges constitutionnels à rédiger leurs décisions.
Ça veut dire que les 9 sages et 9 juges, ils sont là tous les jours. C'est un travail à plein temps.
Oui, c'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps, surtout depuis la réforme constitutionnelle de 2010 qui a fait entrer dans le droit positif la question prioritaire de constitutionnalité. Peut-être je vais revenir un peu sur l'histoire du Conseil constitutionnel, ouais, que vous abordiez, ouais, tout à l'heure, ouais, pour qu'on comprenne à quoi ça sert, justement.
Exactement, ouais.
Alors, en effet, avant 58, avant la 5e République, il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité. Pourquoi il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité ? C'est parce qu'on considérait que le peuple était souverain et que donc le Parlement était souverain et qu'on ne contrôlait pas le Parlement.
D'accord.
Donc, il y a eu quelques tentatives, en particulier au moment de la Constitution de 1946, mais finalement qui n'ont pas abouti. Et la Ve République, donc en 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir, et il faut se souvenir qu'on sortait de la IVe République. Alors,
très instable.
Tous les auditeurs ne s'en souviennent pas, mais justement, la 4e République, c'était très instable. Mmh. Parfois, les gouvernements ne duraient qu'un mois. Mmh. Et donc, ce que voulait le général de Gaulle, c'est d'avoir un pouvoir exécutif stable qui puisse mener des réformes jusqu'à leur terme. Parce que la 4e République était tellement instable qu'on n'arrivait jamais à mettre en place des réformes dans la durée. Et donc, pour que le gouvernement soit stable, il fallait que le pouvoir exécutif soit protégé du Parlement, parce que sous la 4e République, le Parlement pouvait faire tomber très facilement les gouvernements, et le général de Gaulle voulait l'éviter lorsque la 5e République a été installée. Et donc, l'objectif du contrôle constitutionnel qui s'est mis en place à ce moment-là, c'est de protéger le pouvoir exécutif de l'ingérence du Parlement. On appelait ça à l'époque le Conseil constitutionnel chien de garde du Parlement, chien de garde de l'exécutif plutôt, contre le Parlement.
Ça veut dire que le Conseil constitutionnel faisait partie dans l'esprit plutôt du pouvoir exécutif ?
Ben, il faisait partie plutôt du gardien, du protecteur du pouvoir exécutif. D'accord. si vous voulez. Ouais. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, l'objectif de la création du Conseil constitutionnel n'était pas tellement de protéger les droits fondamentaux, c'était véritablement de faire en sorte d'assurer au pouvoir exécutif une certaine stabilité. D'accord. Alors, il faut reconnaître aussi que la Constitution de 1958, qui est toujours la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui, c'est une Constitution qui règle surtout les rapports entre les pouvoirs et qui s'occupe pas tellement des droits fondamentaux. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au départ, le Conseil constitutionnel avait une activité relativement réduite. D'ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel à l'époque exerçaient une autre profession. Par D'accord. exemple, Georges Pompidou, qui a été président par la suite, a été membre du Conseil constitutionnel au début de la Ve République, et il travaillait en même temps à la Banque Rothschild, ce qui n'est plus possible aujourd'hui.
Et après, ça a bougé avec des nouvelles prérogatives qui fait que ça s'est renforcé sur les droits fondamentaux.
Et après, ça a bougé parce que, pour plusieurs raisons, au départ, Le Conseil constitutionnel était en plus peu saisi parce qu'il ne pouvait être saisi que par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Alors, tous ces responsables politiques ne le saisissaient pas très souvent et donc il avait relativement peu d'activité. Et c'est, alors, il y a eu plusieurs choses qui ont fait bouger le Conseil constitutionnel. En 1971, le Conseil constitutionnel rend une décision sur la liberté d'association, enfin peu importe, et à ce moment-là, il dit on va contrôler les lois non seulement à partir de la Constitution de 1958, mais aussi à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc,
ça devient un autre texte de référence, finalement.
Voilà, il s'est mis à s'occuper des droits fondamentaux. Hein, du principe d'égalité, de la liberté individuelle, etc. Et il a élargi également son contrôle au préambule de la Constitution de 1946. Et le préambule de la Constitution de 1946, il contient les droits économiques et sociaux, par exemple le droit de grève, etc. D'accord. Et donc, ça faisait un ensemble beaucoup plus large et qui concernait l'ensemble des droits. Et par la suite, il a étendu également à la Charte de l'environnement de 2004. Donc, d'accord, élargissement des textes et du type de contrôle qu'on pouvait exercer sur les lois. Mmh. Et ensuite, en 1974, donc c'est le début du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, réforme constitutionnelle qui permet à 60 députés et sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, ça devient un droit de l'opposition parlementaire et une arme politique, disons, et presque systématiquement, en tous les cas, extrêmement souvent, le Conseil constitutionnel est saisi des lois qui viennent d'être votées. D'accord. Donc, et la dernière réforme constitutionnelle, c'est la réforme de 2008 qui est entrée en vigueur en 2010 et qui permet aux citoyens de poser ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas seulement juste après l'adoption d'une loi et avant sa promulgation qu'on peut saisir le Conseil constitutionnel, c'est parce que vous êtes, par exemple, vous faites l'objet d'un procès, vous avez fait un procès, vous êtes condamné par une juridiction pénale, vous considérez que la loi qui vous est appliquée n'est pas constitutionnelle, à ce moment-là, vous demandez à ce qu'il y ait une question qui soit transmise au Conseil constitutionnel, et si la Cour de cassation ou le Conseil d'État transmet cette question, eh bien, votre affaire est jugée et éventuellement le Conseil constitutionnel peut abroger la loi qui vous est applicable.
Donc là, et c'est fréquent
un
finalement.
Droit qui est donné aussi. Ah ben, ça a complètement changé les pratiques du Conseil constitutionnel. Si je donne quelques chiffres, bon, le Conseil constitutionnel jusqu'à présent, il le fait toujours, examine 15 lois par an environ, ouais, qui sont pour lesquelles il est saisi par les parlementaires. Ouais. Par exemple, il a été saisi sur la loi de programmation sur la justice, sur la loi anti-casseurs, on vient d'en parler, etc., par l'opposition parlementaire. Donc c'est 15 lois par an. Okay. En question prioritaire de constitutionnalité, il est saisi d'à peu près 80 questions par an.
Ça veut dire 80 qui sont transmises par la Cour de cassation,
voilà,
le Conseil d'État.
Transmises, ouais, par la Cour de cassation, le Conseil d'État.
Ça veut dire qu'ils en reçoivent beaucoup plus ?
Ils en reçoivent 5 fois plus, à
5
peu
fois
près.
Plus, ok.
5 fois plus, mais alors du coup, maintenant on a rendu beaucoup de décisions, alors parfois le Conseil d'État et la Cour de cassation, eh bien, disent, ben voilà, sur le plan constitutionnel, c'est cette interprétation qu'il faut retenir et pas celle-là, puisque le Conseil constitutionnel a déjà rendu une décision.
D'accord.
Donc, si vous voulez, ils font eux-mêmes un contrôle de constitutionnalité. Donc voilà, donc c'est quand même, aujourd'hui un droit nouveau qui est donné aux citoyens, même s'il y a un certain nombre de filtres. C'est à la suite, par exemple, des questions prioritaires de constitutionnalité qu'on a considéré que l'avocat devait être présent en garde à vue, par exemple, ou un certain nombre de droits qui ont été reconnus, qui ne l'étaient pas auparavant.
D'accord.
Donc voilà, et puis la troisième compétence du Conseil constitutionnel, c'est sa compétence électorale, et c'est dans ce cadre qu'il contrôle l'ensemble du processus électoral d'élection du président de la République et qui contrôle a posteriori également les élections des députés et des sénateurs, et il contrôle également les comptes de campagne, et c'est dans ce cadre qu'il a pu annuler par exemple les comptes de campagne d'un ancien président de la République.
Dont on parlait tout à l'heure dans l'extrait.
Voilà, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Alors, sur faire un petit zoom sur les 9 membres du Conseil constitutionnel, est-ce que vous pouvez nous rappeler juste comment ils sont nommés et pour combien de temps, et pourquoi cette diversité? Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent être nommés par différentes personnes et pour plusieurs durées. Pourquoi ils ne sont pas tous pareils?
Ah si, ils sont tous, la durée est la même pour tout le monde.
Ah bah non, d'accord.
À l'exception des présidents de la République dont je pourrais parler tout à l'heure, des anciens présidents de la République, ils sont nommés pour 9 ans, non renouvelables, et ils sont nommés par tiers tous les 3 ans, l'un par le président de la République, le deuxième par le président du Sénat et le troisième par le président de l'Assemblée nationale.
Okay.
S'il peut y avoir des durées différentes, c'est parce que il y a eu plusieurs décès au sein du Conseil constitutionnel, et que le remplacement de ces personnes, de ces membres décédés, conduit à avoir parfois soit des mandats un peu plus courts, soit des mandats un peu plus longs.
D'accord.
Par exemple, Lionel Jospin, qui était membre du Conseil constitutionnel jusqu'il y a un mois, a remplacé Jacques Barrot, qui est décédé au cours de son mandat, et donc son mandat a été plus court, puisqu'il a fini en réalité le mandat de Jacques Barrot.
Okay.
Voilà.
Ok, c'est l'heure de faire une première petite pause musicale avec Leonard Cohen. On écoute The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai tant d'amis. J'ai la foi.
as the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est La Fabrique Politique. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Nicole Maestrachi, membre du Conseil constitutionnel, qui nous en raconte le fonctionnement et les coulisses. Alors Nicole, il y a des mots un peu obscurs qu'on entend, les saisines, les sections, les rapporteurs, les séances plénières, le secrétariat général. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots comment on fabrique une décision au sein du Conseil constitutionnel ?
Alors, tout dépend du type de décision. D'abord, la saisine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que soit les parlementaires, soit les citoyens assistés d'un avocat envoient une question ou envoient une loi devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'ils saisissent le Conseil constitutionnel. C'est un terme juridique peut-être un peu obscur, mais qui veut assez bien dire ce qu'il veut dire. Alors, comment le Conseil constitutionnel travaille ? Alors, il y a une chose qui est particulière à la France, si on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est qu'on a des délais des délais qui nous sont imposés qui sont extrêmement courts. Puisque lorsqu'on est saisi sur une loi, par exemple, prenons la loi anti-casseurs sur laquelle on vient de statuer, elle est adoptée définitivement par le Parlement. Ensuite, les parlementaires nous saisissent. Il peut y avoir une, deux, trois, quatre saisines, ça dépend de l'opposition. Là, il y a une opposition de gauche et une opposition de droite, parfois. Donc, on peut avoir quatre saisines, comme on a eu, par exemple, sur la loi de programmation sur la justice. Mmh. Et à partir du moment où on est saisi, on n'a qu'un mois pour statuer. Donc, on a un mois pour examiner la loi, pour examiner les dispositions de la loi qui sont contestées et pour rendre une décision. Donc, c'est extrêmement court. Ouais. Alors, quand on est saisi d'une loi de cette manière-là, on regarde tous les débats parlementaires, on lit tous les rapports qui ont été réalisés sur cette loi, on regarde l'avis du Conseil d'État, l'étude d'impact, puisque maintenant tous les projets de loi sont précédés d'une étude d'impact, et puis on examine si telle ou telle disposition est constitutionnelle. Alors il faut bien préciser une chose, c'est que quand on valide une loi, c'est-à-dire quand on ne la censure pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec cette loi ou qu'on a porté une appréciation sur son opportunité ou sur sa pertinence. Ça veut dire simplement qu'elle n'est pas contraire à la Constitution. Par exemple, on a vu des lois absurdes qu'on considérait, que la majorité d'entre nous considérait comme absurdes ou inutiles, mais néanmoins on ne les a pas censurées parce qu'elles n'étaient pas contraires à la Constitution. On a vraiment un rôle particulier.
Mais quand vous dites « on », ça veut dire que tous les neuf vont étudier la loi ou il y a quand même une répartition des rôles ?
Alors, il y a toujours un rapporteur.
D'accord.
Parfois, il peut y avoir deux rapporteurs quand il s'agit d'une loi importante. Donc, ce rapporteur va approfondir un peu plus et il va préparer un rapport et un projet de décision qui soumettra à ses collègues lors du délibéré.
D'accord.
Alors tous les membres siègent en principe, c'est-à-dire les neuf membres siègent, et parfois l'un des membres se déporte, c'est-à-dire qu'il ne siège pas parce que soit il a participé, par exemple, pour les lois qui viennent d'être votées, mais il y a des membres qui ont, comme parlementaires, participé au débat, et auquel cas, leur impartialité pourrait être mise en cause, et donc, ils ne participent pas.
Ah oui, parce qu'ils viennent d'être nommés au Conseil alors qu'ils étaient parlementaires avant.
Ouais, voilà. Là, il y a deux sénateurs qui viennent d'être nommés, François Pillet et Jacques Mézard, et donc ils ont participé à un certain nombre de textes. Par exemple, ils n'ont pas siégé pour la loi de programmation sur la justice et pour la loi anti-casseurs.
D'accord. Et quand le rapporteur prépare ce qu'il va présenter au délibéré, ça veut dire que c'est là où il se fait aider par les juristes et les personnes qui...
Alors, il se fait aider par les juristes et les juristes, ce qu'on appelle le secrétariat général.
D'accord.
En fait, le secrétariat général du Conseil est en général dirigé par un conseiller d'État, c'est-à-dire un juriste, un membre du Conseil d'État, et il y a un certain nombre de juristes qui travaillent avec lui, qui appartiennent à différents corps, alors des juges administratifs, des juges judiciaires, des administrateurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, et puis des maîtres de conférences, des universitaires qui travaillent à temps partiel ou complet pour les aider. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils travaillent beaucoup. Et puis, il y a également un service de documentation qui est un peu qui est relativement fourni et qui prépare toute une documentation, qui prépare par exemple tous les rapports ou tous les articles qui ont été écrits sur telle ou telle question qui nous est soumise.
Et donc ça finit... Ouais, pardon. Voilà. Ce que vous allez dire, c'est qu'une fois que c'est prêt, on passe en séance plénière et là, il y a un vote.
Voilà. Là, il y a un vote. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce cadre, on rencontre également le gouvernement, c'est-à-dire qu'on rencontre le secrétariat général du gouvernement qui dépend du Premier ministre, des représentants du Premier ministre, au fond, au cours d'une réunion qui a essentiellement pour objet de faire préciser un certain nombre de points. Alors là, le gouvernement est toujours en position de défendre la loi. Mmh. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'une loi qui a été votée contre l'avis du gouvernement ou d'une disposition d'un article qui a été voté contre l'avis du gouvernement, là, dans cette situation, gouvernement défend toujours la loi. D'accord. Et on peut lui poser un certain nombre de questions, surtout des questions pratiques, en fait, sur la mise en œuvre de la loi.
Et après, donc, voilà. Il y a un vote à la majorité.
Voilà, on arrive absolument à la majorité. D'accord. Avec une voix prépondérante du président dans le cas où il y a partage de voix.
Okay.
Voilà. Et donc, on vote et la décision est presque immédiatement, on sort du délibéré. En fait, la décision est écrite. Si on doit la modifier, on la modifie au cours de délibéré. Elle est immédiatement publiée.
D'accord.
Et ensuite, le gouvernement, dès que la décision est publiée, qu'il s'agisse d'une décision de censure, si c'est une décision de censure, d'abord, on ne censure jamais toute la loi, on censure un petit bout de la loi. Et dans ce cas-là, la loi est promulguée sans la partie qui est censurée, ou alors si on la valide, ben là aussi le gouvernement peut la promulguer. Mais tout ce travail doit être fait en un mois.
D'accord. Alors, juste un petit mot pour toucher du doigt un peu l'ambiance. On imagine évidemment le Conseil constitutionnel plutôt comme un espace de discussion très calme, très feutré. Il y a quand même des débats houleux, il y a des éclats de voix, parfois on s'engueule. Enfin, comment ça se passe sans révéler de secret
J'ai connu plusieurs compositions.
Ouais.
Alors évidemment, il y a des composantes personnelles, je dirais. Mais non, c'est pas un espace consensuel. Si
D'accord.
vous voulez, c'est un espace courtois, c'est un espace de délibération, on échange des arguments, mais on peut avoir de très solides désaccords.
Okay.
Et donc...
Ça veut dire qu'il faut gagner la majorité dans ces cas-là?
Comment ?
Ça veut dire qu'il faut gagner la majorité dans ces cas-là quand il y a des...
Oui, bien sûr. Il y a tout un travail d'argumentation, de conviction qui doit se faire. Alors, contrairement à ce qu'on pense en général de l'extérieur, ce que la presse pense de l'extérieur, les clivages entre les membres ne sont pas
gauche-droite.
Toujours politiques,
ouais.
Ne sont pas toujours gauche-droite, parce que souvent la presse compte en disant, en comptant combien de membres ont été nommés par une personnalité politique de gauche, combien de membres ont été nommés par une personnalité politique de droite. En fait, il y a beaucoup plus de clivages que cela, parce que, par exemple, il y a l'attitude qu'on peut avoir par rapport à l'Europe, ceux qui sont plus souverainistes ou ceux qui sont plus européens. On a beaucoup de textes qui concernent ces questions. Il y a certains qui sont très libéraux sur le plan économique et d'autres qui sont plus dirigistes. Et là, c'est très transversal à la droite et à la gauche. Il y a aussi sur le plan des des mœurs, des questions de société. On peut avoir des positions très diverses et qui sont aussi transversales à la droite et à la gauche. Il y a aussi le fait qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on est plus jeune, qu'on est plus vieux.
Qu'on a une formation de juriste ou pas, d'ailleurs.
Voilà, ou un juriste. Alors là, c'est une particularité française, pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres pays où il y a également des politiques dans les cours constitutionnels, mais c'est assez rare. Dans la plupart des pays, les membres des cours constitutionnels sont des juristes, et des juristes qui ont une expérience assez longue. Par exemple, en Italie, il faut avoir été 20 ans, soit juge, soit professeur de droit. C'est la même chose en Allemagne, etc. En France, la situation est différente parce qu'il n'y a aucune exigence pour être nommé au Conseil constitutionnel. Il n'y a aucune exigence de compétence et c'est le choix des personnalités qui nomment.
Et alors, du coup, qu'est-ce qui garantit l'indépendance, finalement, du Conseil constitutionnel ?
Alors, depuis la réforme de 2008, il y a une première garantie, c'est que les nouveaux membres, enfin les membres désignés par les autorités de nomination, sont entendus par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, celui qui est nommé par le président de la République, ce qui est mon cas, par exemple, est entendu par les deux commissions des lois, de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis celui qui a été nommé par le Sénat est entendu par la commission des lois du Sénat. Alors, c'est une première garantie, disons. Il y a un débat aujourd'hui en France, est-ce qu'il faudrait aller plus loin, est-ce qu'il faudrait avoir des exigences de compétences juridiques, j'entends, parce que voilà.
C'est pas tranché.
Aujourd'hui, c'est pas tranché, c'est un débat qui est ancien et qui se poursuit, qui devient peut-être un peu plus aigu parce que la question prioritaire constitutionnelle exige un véritable travail de juriste. D'accord. Alors évidemment, il y a les assistants, etc. Mais en même temps, les politiques, les anciens parlementaires ont une expérience qui peut être utile également au Conseil constitutionnel. Donc c'est une question qui est très débattue. En tous les cas, c'est une particularité française. Le seul pays en Europe qui a à peu près, qui a aussi des parlementaires, c'est la Belgique, où il y a la moitié de parlementaires et la moitié de juristes.
D'accord.
Mais il n'y a pas de membres du pouvoir exécutif comme en France, hein, d'anciens premiers ministres ou des anciens
ou tout un président.
Donc d'accord. Voilà, c'est des questions qui sont dans le débat aujourd'hui. C'est difficile ici d'aller plus loin, mais en tous les cas, c'est un débat qui traverse la société. Et l'autre débat, c'est la présence des anciens présidents de la République. Alors là, c'est un débat qui est presque tranché parce qu'il y a un consensus politique sur ces questions, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde pense que les anciens présidents de la République n'ont plus leur place au Conseil constitutionnel.
Ok.
Voilà.
Okay. Juste, on y revient dans un instant. C'est juste le moment d'un petit break musical, Nicole Maestrachi. On se fait une petite pause. On écoute Stereolab. La chanson s'appelle Wow and Flutter, et on se retrouve dans un instant.
I'm
C'est la Fabrique politique, vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Notre sujet du jour, le Conseil constitutionnel, et notre invité, l'une des neuf sages de ce Conseil, Nicole Maestrachi. Alors Nicole, c'est une évidence pour le commun des mortels, le Conseil constitutionnel c'est plutôt un organe discret on va dire. Et d'ailleurs, ces procédures sont tenues secrètes. On ne sait jamais qui s'est prononcé pour quelle position lors des séances de décision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce secret et en quoi il constitue éventuellement une particularité française ?
Non, ce n'est pas une particularité française. C'est plutôt l'inverse qui est exceptionnel. Non, la plupart des cours constitutionnels respectent le secret de délibéré, mais il y a quelques cours constitutionnels et aussi quelques cours européennes, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui prévoient la possibilité de donner connaissance des opinions dissidentes ou des opinions concordantes, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui peut écrire qu'il n'est pas d'accord avec la décision, et surtout pourquoi il n'est pas d'accord, ou un juge qui peut écrire qu'il est d'accord avec la décision, mais qu'il est d'accord pour d'autres raisons. C'est par exemple le cas aussi de la Cour suprême américaine, on parle assez fréquemment de leurs décisions, ou c'est le cas également de la Cour de Karlsruhe, de la Cour allemande ou de la Cour espagnole, mais par exemple la Cour italienne, la Cour portugaise, la Cour belge, respecte le secret du délibéré et le secret des votes. Alors, si vous voulez, il y a des arguments dans un sens et dans un autre. Ceux qui souhaitent qu'on maintienne le secret du délibéré et le secret des votes pensent que ça politiserait excessivement le débat. Ce qui est sans doute un peu vrai pour ce qu'on appelle le contrôle a priori, c'est-à-dire le contrôle qui suit très rapidement l'adoption d'une loi, parce que là, on est encore dans le débat politique. C'est moins vrai, me semble-t-il, pour les questions prioritaires de constitution.
Qui sont plus à froid, quoi.
Qui viennent bien après. Certains considèrent aussi que ça peut entraîner une sorte de starisation de certains juges qui pourraient, pour se faire connaître, écrire beaucoup d'opinions d'ici. C'est vrai que c'est ce qui se passe un peu aux États-Unis, mais le système américain est quand même extrêmement différent.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le volet juridique pourrait en prendre...
Pas forcément, mais ça, si vous voulez, ça donnerait peut-être plus d'importance à certains juges qu'à d'autres.
Ah oui. Les rapports
et
de force.
Puis, le troisième argument, c'est de dire que si on sait que telle décision n'a pas été acquise, a été acquise à une très faible majorité, qu'il y a eu beaucoup d'opinions dissidentes, eh bien, ça affaiblirait la décision. Moi, personnellement, je le dis parce que je l'ai déjà dit, en particulier devant la commission des lois de l'Assemblée, je suis plutôt favorable à des opinions dissidentes, au moins en QPC. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une bonne manière de faire comprendre à un public large, c'est-à-dire aux citoyens, quel est le débat constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que le débat constitutionnel ? Pourquoi certains pensent, ont une position et d'autres une autre position ? Quelles conséquences ça a sur les institutions et sur la société en général. Je pense que c'est, sur le plan pédagogique en tous les cas, c'est important et intéressant. Alors il y a des pays pour lesquels c'est très très largement ouvert, c'est les pays un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, en particulier le Mexique ou le Brésil, où il y a même le délibéré et même filmé, puisqu'il y a des chaînes de télévision qui retransmettent les audiences, mais aussi les délibérés. Alors, ça a été adopté en Amérique latine à une certaine époque dans une perspective de prévention de la corruption, de lutte contre la corruption, pour éviter que les juges, justement, soient trop influencés par des lobbies diverses.
Et alors, du coup, parce que vous le mentionnez, c'est vrai qu'on se dit que finalement, vous avez assez peu l'occasion d'être connecté aux citoyens, aux citoyennes, de faire à la fois de la pédagogie. Ça vous arrive quand même d'avoir des contacts directs avec la population ou c'est vraiment très rare ?
on vit normalement dans une société normale.
Quand non, mais enfin, en tant que juge, hein, je parle pas dans votre vie.
On n'est pas sous cloche.
J'imagine que vous sortez parfois de la rue Montpensier, mais...
On sort parfois de ce que j'appelle le périmètre enchanté du Palais Royal. Non, mais il est vrai que c'est une période où on a quand même beaucoup moins de relations avec une société diverse qu'on l'avait précédemment. Enfin, j'ai été juge judiciaire la plupart du temps. J'ai eu d'autres activités qui m'ont mis beaucoup en relation avec des milieux très divers et des populations très diverses. Il est vrai que depuis que je suis au Conseil constitutionnel, je vis plus sur mes acquis qu'auparavant. Voilà, mais tous les membres du Conseil constitutionnel ont par définition une expérience assez importante de la vie. Effectivement, ça demande un effort de continuer à capter les bruits du monde, j'en suis consciente, mais cet effort, c'est un effort que doit réaliser n'importe quel juge dans n'importe quel endroit ou n'importe quel haut fonctionnaire dans n'importe quel endroit. C'est une question qui se pose constamment à toutes les personnes qui ont des responsabilités, parce que plus on a de responsabilités, moins en général on est connecté avec l'ensemble des situations sociales et humaines. Je crois que c'est un problème un peu général. Mais il est vrai que le membre du Conseil constitutionnel a une obligation de réserve.
Oui, il y a ça en plus. Théoriquement, vous ne devez pas exprimer vos opinions.
Il ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer sur une question sur laquelle le Conseil constitutionnel a des chances, ou a un risque d'être saisi. Donc,
ou a été saisi. Parce que vous ne pouvez pas non plus revenir sur le passé. J'imagine que vous ne pouvez pas raconter ce qui s'est passé il y a 5 ans.
Évidemment, on ne peut pas raconter ce qui s'est passé. On est tenu, et d'ailleurs on prête serment devant le président de la République, on est tenu par le secret du délibéré, donc on ne peut pas raconter ce qui s'est passé. On ne peut pas dire qu'on n'était pas d'accord avec telle ou telle décision qui a été prise, bien entendu. Et on ne peut pas non plus prendre des positions sur des questions qui sont susceptibles d'être soumises au Conseil constitutionnel. Donc, évidemment, on a quand même une obligation de silence qui est assez stricte pendant les 9 ans, en tous les cas, où on est au Conseil constitutionnel.
Après, on peut écrire des livres.
C'est normal parce que c'est la protection de l'impartialité. Et l'impartialité, c'est aussi la confiance que doivent avoir les citoyens dans l'institution, il me semble. Donc, c'est assez normal, même si c'est parfois un peu irritant pour le juge constitutionnel.
Et alors, justement, ce levier qui existe maintenant de la question prioritaire de constitutionnalité, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on pourrait faire, la réponse est un peu dans ma question, hein, mais pourrait faire plus pour que ce soit connu des citoyennes et des citoyens, qui sachent un peu mieux comment ça marche, comment ils peuvent éventuellement s'en servir, ou parce que ce n'est pas complètement démocratisé encore.
On pourrait certainement faire beaucoup mieux en termes de pédagogie et de connaissances. Mais il est vrai qu'au-delà du Conseil constitutionnel, notre système judiciaire est très compliqué. La justice administrative et la justice judiciaire, c'est souvent un peu mal compris. Je rappelle, la justice administrative, c'est les relations, pour aller très vite, les relations avec l'administration, une personne privée avec une administration, et la justice judiciaire, c'est les relations entre deux personnes privées. Mais il est vrai que c'est parfois très compliqué, parce que par exemple, prenons une affaire de responsabilité médicale. Vous allez à l'hôpital, vous êtes fait opérer, il y a une faute, ou si vous suspectez qu'il y a une faute médicale qui a été commise, donc vous attaquez. Si vous êtes dans une clinique privée, bien vous attaquez devant le juge judiciaire. Si vous êtes dans un hôpital
public,
vous attaquez devant le juge administratif. Donc c'est quand même un système très compliqué. En plus, le Conseil d'État, qui est la Cour suprême des juridictions administratives, est aussi le conseiller du gouvernement pour les projets de loi, puisque le gouvernement le saisit avant de déposer un projet de loi pour avoir son avis, justement d'ailleurs, sur la constitutionnalité, sur les textes que le gouvernement va proposer.
Ça, c'est le Conseil d'État, on est d'accord. Hein. Ça veut dire que c'est encore. Voilà. Là, je crois qu'il va falloir que je fasse une émission sur le Conseil d'État pour bien expliquer la différence. et avec un positionnement particulier à la frontière, encore une fois, de l'exécutif, du judiciaire. C'est des zones un peu frontières, finalement.
C'est compliqué à comprendre parce que, si vous voulez, vous avez la justice administrative, c'est tribunal administratif, cour d'appel administrative et Conseil d'État, qui est la cour suprême des juridictions administratives. Ouais. Mais le même Conseil d'État a une double casquette, d'une certaine manière. Il a une casquette contentieuse, c'est-à-dire que c'est une juridiction, et il a une casquette conseil du gouvernement.
Oui, conseil le gouvernement, en plus de ses fonctions judiciaires.
Voilà. Et donc, c'est ça qui est parfois compliqué à comprendre. Quant à la Cour de cassation, c'est la Cour suprême de toutes les juridictions judiciaires, c'est-à-dire les tribunaux de grande instance, avec toutes les spécialités que vous connaissez, du juge d'instruction au juge des enfants, etc., juge correctionnel, juge civil, mais aussi les tribunaux de commerce, mais aussi les conseils de prud'homme, etc., la cour d'appel et au-dessus la cour de cassation. Mmh. Alors, cette répartition, déjà, elle n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays où la justice administrative et la justice judiciaire sont beaucoup plus
c'est la même chose, quoi.
Dans des juridictions uniques avec, ouais, parfois une section administrative. D'accord. Et des sections judiciaires. Donc, ça, c'est déjà une complexité, mais ça résulte de notre histoire. Et donc, le Conseil constitutionnel arrive comme une troisième juridiction suprême, je dirais, qui contrôle la constitutionnalité. Mais les juridictions que sont le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent aussi exercer ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire qu'elles peuvent considérer qu'une disposition est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, et dans ce cas-là, elles peuvent l'écarter, ce que le Conseil constitutionnel ne peut pas faire. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pour vous montrer que,
la complexité.
Aujourd'hui, si vous voulez, quand je suis rentrée quand je suis devenue juge, il y a 45 ans, on appliquait un seul droit, qui était le droit national. Aujourd'hui, on est dans une situation où les normes juridiques sont extrêmement imbriquées. Les normes juridiques nationales, européennes, internationales sont extrêmement imbriquées. Et du coup, les sources du droit, c'est-à-dire les sources normatives, les sources qui vont influencer, je dirais, l'élaboration, la fabrique des lois et leur mise en œuvre, eh bien, sont extrêmement enchevêtrées et extrêmement compliquées. C'est pour ça que la question de la pédagogie, puisque vous posez la question de comment faire en sorte que les citoyens s'approprient au fond ces outils qui leur sont donnés, eh bien, c'est une question qui dépasse la question du Conseil constitutionnel.
Bien sûr, c'est tout un ensemble.
Alors, juste pour vous dire, la question prioritaire de constitutionnalité, elle a 10 ans. Elle aura 10 ans en 2020, 2010, 2020. On est en train, ce qu'on ne fait jamais, mais au Conseil constitutionnel, on a lancé un appel à projet de recherche, c'est-à-dire qu'on a demandé à des chercheurs de regarder comment cette question.
C'est 10 ans d'histoire, finalement.
Voilà, 10 ans d'histoire. Qu'est-ce que ça avait changé dans la vie judiciaire, administrative du pays? Qu'est-ce que ça avait changé pour les citoyens? Quels étaient les citoyens qui s'étaient réappropriés, qui s'étaient appropriés la question prioritaire de constitutionnalité? Et quels sont ceux qui justement, n'y avaient pas eu recours? D'accord. Par exemple, pour donner un exemple, on a beaucoup de questions prioritaires fiscales. On a un cinquième des questions qui sont des questions fiscales, mais en revanche, on a très peu de questions en matière sociale. C'est-à-dire que, par exemple, les syndicats de salariés se sont très peu saisis de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, notre question et la question qu'on va poser, qu'on pose aux chercheurs, c'est pourquoi on en est arrivé là? Quelles sont les raisons pour lesquelles on se trouve dans telle situation? Est-ce que c'est un problème de méconnaissance ou est-ce que parce que certains acteurs considèrent que c'est pas intéressant de saisir le Conseil constitutionnel parce que ses décisions ne sont pas suffisamment favorables à telle ou telle catégorie de population. Voilà, c'est des questions qu'on va se poser et avec l'espoir que justement on arrive à mieux faire comprendre à un public large qu'est-ce que c'est que le contrôle de constitutionnalité, comment ça garantit au fond les droits fondamentaux dans une société donnée et comment, qu'est-ce que les citoyens peuvent en attendre. Voilà, c'est un peu ça l'objectif.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Nicole. On arrive à la fin de cet entretien. C'était très éclairant de vous avoir dans effectivement ce dédale des institutions, mais qui sont notre République à tous. Et c'était aussi un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Campus. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Thank you.
stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Your pale blue eyes linger on. Your pale blue eyes. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on.
Toujours sur Campus Grenoble, c'est la Fabrique Politique, et c'est l'heure de la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Cette fois, c'est un article du Hindustan Times de New Delhi qui a été publié le 9 janvier et qui s'appelle « Vers une possible dépénalisation des relations homosexuelles en Inde ». Quelques mois après avoir rappelé les droits fondamentaux protégés par la Constitution indienne, la Cour suprême accepte de revoir sa position sur le sexe « entre guillemets contre nature ». Après avoir reconnu l'existence d'un troisième genre en 2014, puis affirmé en 2017 que la vie privée était un droit fondamental garanti par la Constitution, la Cour suprême de l'Inde va-t-elle bientôt dépénaliser l'homosexualité ? Elle en a pris le chemin lundi 8 janvier en annonçant qu'elle allait revoir sa position sur le sujet, 4 ans après avoir réintroduit dans le code pénal l'interdiction des rapports charnels entre guillemets, contre nature, alors que ceci avait été dépénalisé en 2009. Cette décision fait espérer aux membres de la communauté homosexuelle que leur combat pour le droit à l'amour peut continuer, estime l'Hindustan Times dans son éditorial du 9 janvier. Le journal rappelle qu'il aura fallu que des gens courageux saisissent la justice pour que celle-ci consente à entendre leurs arguments, à savoir que l'article 377 du Code pénal, qui bannit tout rapport autre que la pénétration pénovaginale, viole les droits garantis par la Constitution, que sont la liberté individuelle, la protection de la vie privée, le droit de ne pas être victime de discrimination et l'égalité devant la loi. Selon l'Hindustan Times, la Cour suprême a ouvert la porte à un débat sur le droit à l'amour, qui arrive à point nommé. Car en Inde, l'amour est encore souvent perçu comme une transgression, dès lors qu'il n'est pas vécu avec la caste, avec la classe sociale, avec le genre, avec la religion qui conviennent, avec l'approbation des parents, de la communauté et de la justice, rappelle le quotidien. Voilà une illustration assez loin de nous, mais du pouvoir que peut avoir une cour suprême ou, chez nous, le Conseil constitutionnel. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci encore à Nicole Maestracci de nous avoir accompagnés dans cette explicitation. Il y a un site internet du Conseil constitutionnel où on retrouve toutes les décisions, les délibérés, et aussi des vidéos, puisque les délibérés des décisions relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité sont en ligne. Je vous invite à y faire un tour, et puis bien sûr sur le site internet de Radio Campus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.